Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h16 et on ouvre maintenant, comme chaque soir, le débat du Club des Idées. Et comme beaucoup de Français, vous êtes peut-être posé la question de votre reconversion professionnelle à l'occasion de cette crise sans précédent que nous vivons. Se questionner sur son travail après ces semaines confinées, c'est tout à fait normal. Mais de là à franchir le pas, est-ce un feu de paille ou est-ce que ça va impacter réellement le monde du travail de demain? On en parle ce soir avec mes invités. Evelyne Stavicki, coach, psychologue du travail et professeure à l'ESCP Business School. Sophie Denave, sociologue, autrice de Reconstruire sa vie professionnelle, sociologie des bifurcations biographiques, c'est paru chez PUF. Et puis David Bourpère qui est avec nous également dans ce studio, directeur délégué de Hello Work, c'est un éditeur de solutions qui met en relation, si je résume, les recruteurs, les formateurs, les consultants et avec ceux qui cherchent un nouveau travail. Vous nous expliquerez tout ça. En tout cas, bonsoir à tous les trois et bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir.
On va être très concret ce soir parce que changer de vie, changer de métier, je pense que tous ceux qui nous écoutent ou presque, qui ont pensé au moins une fois, à l'occasion de cette crise sanitaire. On aurait pu imaginer d'ailleurs que ce serait un frein au changement. Et bien au contraire, ça a dopé, hein, semble-t-il, les envies de reconversion professionnelle des Français. J'ai lu que 92% des actifs déclarent que le confinement a augmenté leur envie de reconversion. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, David Bourpère, avec Hello Work?
Alors tout à fait. En fait, sur Hello Work, donc, nous éditons des plateformes, à la fois des plateformes de recrutement, donc une plateforme comme Région de Job par exemple, ou les plateformes sur la formation, avec ma formation, qui met en relation donc, des personnes qui sont à la recherche d'une formation et des organismes de formation. Et l'idée, là, c'était de constater, voir un petit peu l'évolution des usages au cours de cette année 2020 qui était tellement particulière, et une explosion de la consommation, en tout cas de la demande d'information au cours du premier confinement, avec des envies à la fois de reconversion et des envies d'ailleurs. Donc il y avait à la fois les envies d'ailleurs géographiques, et parfois les deux étaient joints, et des envies qui n'étaient pas forcément les mêmes, et puis on a vu qu'elles ont évolué aussi au fil du temps. Donc des envies qui étaient soit liées à un contexte personnel qui devenait difficile économiquement, donc là un souhait de formation très opérationnel, dans une perspective de « je veux trouver un emploi » ou « retrouver un emploi » très
rapidement. J'ai vu que les recherches de formation ont augmenté de plus de 40%, quelque chose comme ça, c'est énorme.
Plus de 40% et ensuite plus de 60% sur des formations à distance. On voit aussi la transformation de la formation, puisque naturellement la formation à distance a explosé. Et que tout un tas de métiers qui, dans les années précédentes, on ne se percevait pas la possibilité de former à distance, là sont devenus accessibles. Donc une explosion de cette formation distancielle, en tout cas de cette envie, et puis parce que contraint. Et on a donc vu que les souhaits de formation se sont soit orientés sur des choses très opérationnelles, avec CAP petite enfance, donc et l'explosion également de la demande sur les métiers médico-sociaux.
On va revenir effectivement sur les profils de jobs, de reconversion qui peuvent tenter les Français. Je voudrais qu'on revienne sur l'origine. C'est le confinement, Sophie Denave, c'est le confinement qui a agi comme un déclic dans ses désirs de reconversion professionnelle?
Alors, je ne suis pas certaine que le confinement a eu un grand rôle, en fait, dans les envies de reconversion professionnelle, puisqu'on a déjà quand même un certain nombre de sondages précédents qui montraient une grande insatisfaction des Français quant à leurs conditions de travail, donc qui nourrissaient, hein, bien évidemment, une envie de changement, une aspiration à changer de métier. Et peut-être que le confinement n'a été finalement qu'une pièce supplémentaire, en fait, a pu effectivement peut-être être la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais après, je pense qu'il faut quand même faire attention entre les envies de changer, les aspirations à de nouveaux métiers, de nouvelles carrières professionnelles et les possibilités réelles. Et je pense que là, c'est encore un peu tôt, effectivement, pour savoir qui sont les personnes, hein, quelles sont les personnes qui vont pouvoir réellement se reconvertir.
Et alors, quelles sont les principales motivations pour décider de changer de voie ? Evelyne Stavicki, par exemple.
Alors effectivement, je suis assez d'accord avec ma collègue qui dit qu'effectivement
Sophie Denave, oui.
Voilà, qui dit que effectivement le confinement n'a pas forcément fait émerger des désirs, mais en tout cas a accéléré des tendances qui étaient déjà présentes depuis quelques années. Ces tendances, on peut les convertir sur un mot qui est le mot de la recherche de sens. On n'a plus envie de faire des métiers qui n'ont pas d'intérêt pour soi, ce qu'on a appelé les bullshit jobs. On l'a vu encore plus pendant le confinement. Et on a de plus en plus envie de faire quelque chose pour lequel on peut s'accomplir, pour lequel on est fait, pour lequel on se sent utile. Alors ça, c'est une très belle motivation. Cette envie, le désir de faire quelque chose qui nous ressemble est une belle motivation. Là où il faut être attentif, c'est quand la motivation, elle est plutôt sur une forme négative. J'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatiguée, je me sens pas reconnue, Donc j'ai envie de changer. Là, on est sur quelque chose autour du réactif, négatif, qui n'est peut-être pas un très bon socle pour construire un projet durable.
Mais chercher un métier qui a plus de sens, ça arrive d'ailleurs, j'ai l'impression, dans les motivations, loin devant le fait de ne plus se plaire dans son job actuel ou de ne plus avoir de possibilités d'évolution, David Borpert.
Les deux premiers items sur l'étude que nous avons menée étaient l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et la quête de sens. Après, je rejoins ce que disait donc la personne... Pardon, j'ai oublié le prénom, mais...
Sophie Denave.
Il y a un pas entre l'aspiration, Sophie Denave, pardon, entre l'aspiration et le fait de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu aussi toute une phase où, en gros, il y a eu aussi beaucoup de temps, hein, finalement, qui a été offert, et donc des personnes qui se sont renseignées sur la possibilité de se former, de se reconvertir. Et c'est comme un déménagement. Lorsque une personne souhaite changer, par exemple, de région, lorsqu'elle envisage une mobilité professionnelle, il y a cette phase de « je regarde, je m'intéresse, je postule et puis finalement je déménage ». Donc il y a quand même pas mal d'étapes entre les deux, et de la même façon pour la reconversion. Mais la quête de sens et l'équilibre vie pro-vie perso étaient les premiers items avant les facteurs de frustration que vous évoquiez.
Parce qu'il y en a qui n'ont quand même pas eu d'autre choix, parce que la crise économique qui découle de la crise sanitaire fait qu'ils n'ont pas la garantie de retrouver leur travail une fois que ce sera terminé. Il y a aussi, j'imagine, des reconversions un peu forcées.
En effet, vous avez des personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain considérées comme non essentielles, ont été mises au chômage technique du jour au lendemain. Et c'est vrai que le choc psychologique a pu être grand, puisque finalement, ils se sont dit, finalement, à quoi je servais dans mon entreprise, à quoi je sers dans ma société, à quoi je sers dans le monde. Et c'est en effet le moment pour moi de réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ce temps de vacuité que l'on a pu avoir pendant ce confinement a été à la fois anxiogène, mais a été à la fois fécond et créatif pour certaines personnes.
Puis il y a eu des reconversions forcées, peut-être, le vendeur de chez Decathlon, pour ne pas le citer, qui devient livreur de pizza par la force des choses. Ça a peut-être aussi donné à certains envie de changer d'horizon par obligation.
Alors, sur des populations, il faut vraiment différencier les populations type cadres qui sont en poste et qui souhaitent se reconvertir de populations qui effectivement se retrouvent contraintes de changer parce que le contexte sanitaire entraîne un contexte économique qui entraîne finalement une obligation. Sur cette population de cadres, on a des aspirations, notamment des personnes qui ont souhaité devenir formateurs, en tout cas des envies de devenir formateurs ou de se former au métier du numérique. On voit aussi que ce temps alors de vacuité, ou en tout cas ce temps qui était offert, leur permettait finalement de monter en compétence sur des éléments qui leur semblent clés dans leur employabilité future. Et puis après, derrière, toutes les fonctions RH également ont été, en tout cas les métiers liés aux ressources humaines, ont suscité beaucoup d'intérêt. Mais il y a cette quête de sens et les formations, notamment dans le secteur du santé, médico-social, ont créé beaucoup, il y a eu un fort attrait. L'esprit de corps, en tout cas notamment sur le premier confinement.
Alors,
c'est beaucoup moins le cas sur le second.
C'est moins le cas sur le second. Je voudrais qu'on prenne un témoignage en ligne. Adèle Duneau, qui a été juriste d'entreprise et qui a décidé justement de changer de voie. Bonsoir Adèle.
Bonsoir.
Vous faites quoi aujourd'hui dans la vie, puisque vous ne voulez plus être juriste?
Alors, je suis actuellement étudiante en troisième et dernière année d'ergothérapie à Paris. Voilà, donc c'est une formation initiale dans le paramédical. Donc je n'ai eu aucune passerelle possible venant du droit, ni une validation d'acquis d'expérience. Donc j'ai dû recommencer au début. Donc ce qu'on entend par paramédical, effectivement, on a toutes les sciences médicales aussi, donc dont l'anatomie, la neuropsychologie, etc. Donc voilà.
Ça a été quoi le déclic pour vous ?
Alors, en fait, c'est pas un déclic. Ça a été un souhait de changement de vie qui a été réfléchi. Ça s'est établi vraiment sur plusieurs années. Tout d'abord, j'ai été bénévole dans quelques associations de handicap. Je me sentais vraiment très à l'aise, et moi-même auprès de ces personnes, en fait, qui étaient en situation de handicap, alors que je connaissais vraiment rien de leur pathologie et du monde du handicap. Du coup, j'étais en entreprise. Je me suis rendu compte que vraiment, l'objectif principal en fait de mon métier de juriste, c'était vraiment de faire gagner un maximum d'argent en fait à mon entreprise, et que l'humain, avec ses forces et ses faiblesses, en fait, il faisait pas partie du contrat. Et c'est vrai que ça m'a dérangée cette situation, et je trouvais plus de sens.
Et vous vous êtes posé la question de l'utilité sociale. À quoi je sers? Mon métier sert à quoi?
Ouais, alors mon métier sert à quoi? Si, le métier sert. Le métier de juriste de juriste, certes, et ça reste un très beau métier. Néanmoins, c'est moi, je n'y trouvais vraiment plus de sens. Et du coup, ça a impacté en fait mon caractère et ma vie personnelle. Et dans le même temps, j'ai donc avec le fait d'aller dans des associations de handicap, etc. On m'a aussi dit, mais tu sais que tu peux en faire un métier en fait, parce que bon, au bout d'un moment d'être bénévole, c'est voilà, on peut pas toujours non plus être bénévole. Et donc j'ai commencé à faire des recherches. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidé à réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer. Parce qu'il y a cette question, effectivement, qu'on se dit, après quelques années de pratique, bon, il est peut-être temps de... Il faut peut-être persévérer, voilà.
Alors, vous savez quoi, Adèle ? C'est passionnant, votre témoignage. Je propose qu'on vous reprenne dans un tout petit instant. On va poursuivre avec vous. Vous allez nous raconter un petit peu votre parcours, se changer de métier de façon aussi radicale. On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h28, vous écoutez Europe 1 et on poursuit notre débat passionnant. On continue de parler de ces Français. C'est peut-être votre cas d'ailleurs, vous qui nous écoutez, qui ont franchi le pas et qui ont opéré une reconversion professionnelle, parfois radicale. On était en ligne juste avant la pause et je voudrais qu'elle reste avec nous un petit moment encore avec Adèle Duneau, qui a été juriste d'entreprise et qui souhaite devenir ergothérapeute, hein, qui fait actuellement une formation. Racontez-nous, Adèle. Donc, vous avez eu ce déclic en lisant un livre.
Exactement. Alors, ce n'était pas qu'en lisant un livre. Hein. J'ai été aussi bénévole dans quelques associations de handicap. Mais effectivement, ce livre, Inventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer, m'a vraiment permis de voir que c'était possible d'avoir fini ses études, d'avoir commencé à travailler et de se rendre compte que... Ben voilà, que c'était pas fait pour nous, en fait, ce métier-là, ça arrive, c'est pas grave. Il faut se donner les moyens, de l'énergie aussi pour y arriver.
Donc, j'imagine que ça doit demander effectivement beaucoup d'énergie, de difficultés pour changer de métier de façon aussi radicale.
Alors, de difficultés, je dirais que non. D'énergie, je dirais que oui. Après, il faut pas hésiter à prendre le téléphone, à pousser quelques portes. À se battre un petit peu avec l'administration, bien qu'on soit dans un pays, je trouve, où on a énormément de possibilités, mais néanmoins, il faut trouver un petit peu aussi tout ce qui est possible. On a tellement de choses et d'aides possibles que parfois, de trouver la bonne, c'est pas toujours évident.
On imagine. Voilà. Comment est-ce que vous pouviez être sûr justement, de ne pas vous tromper ?
Alors, je pense vraiment qu'on n'est jamais sûr, en fait, de ne pas se tromper. Et je pense qu'elles ont de la chance, les personnes qui pensent qu'elles ne se trompent pas. Voilà, donc moi, ce n'est pas mon cas. Mais vraiment, quand je suis à l'école, où je travaille, en fait, le week-end sur mes dossiers que j'ai à rendre, et oui, je dois travailler le week-end, et que je suis en stage aussi auprès de personnes donc en situation de handicap, donc tout handicap, ça peut être des handicaps moteurs, cognitifs, je me sens bien, en fait. Je me sens vraiment dans mon élément. Et ça, c'est une sensation qui vient un peu du plus profond de moi-même. Et je peux pas trop l'expliquer.
Sophie Denave est avec nous également, sociologue, autrice de Reconstruire sa vie professionnelle, sociologie des bifurcations biographiques. C'est courageux, cette démarche d'Adèle, quand même, vous trouvez pas ?
Alors c'est courageux et c'est relativement atypique en fait comme forme de reconversion professionnelle puisqu'elle passe vraiment d'un domaine à un autre et elle fait un bond professionnel assez important alors que toutes les enquêtes statistiques montrent que la reconversion professionnelle la plus courante en fait ce sont des passages vers des métiers voisins finalement où on va pouvoir se resservir, réactiver en fait des compétences professionnelles donc on est vraiment sur des domaines où ces compétences sont transférables et tous les changements beaucoup plus importants où on change de domaine, on recommence à zéro, où on a besoin de repartir en formation, sont statistiquement beaucoup moins fréquents parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles. Et effectivement, hein, comme l'a dit Adèle, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont proposés en France, notamment pour certaines catégories de personnes, hein, pas pour tout le monde. J'ai envie de penser aux indépendants pour qui c'est plus difficile de changer. Pour les salariés, on peut avoir quand même un certain nombre de dispositifs, mais là encore, comme l'a justement remarqué Adèle, ça ça demande quand même de savoir pousser les portes. Il faut quand même être relativement courageux et il faut aussi, j'ai envie de dire, ses facilités quand on a un certain niveau de diplôme. Et je pense que Adèle, en tant que juriste, était diplômée sans doute de l'enseignement supérieur. Donc déjà, d'être dotée d'une forme de capital scolaire, ça va faciliter la reconversion professionnelle.
Evelyne Savicki, vous envoyez beaucoup des profils. Vous êtes coach et psychologue du travail, je le rappelle. Vous envoyez beaucoup des profils comme celui d'Adèle ?
Oui, bien sûr.
Ah oui ?
Adèle est jeune, apparemment, puisqu'elle parle de son début de carrière. Mais
quel âge avez-vous, Adèle ? On peut se permettre de vous le demander ?
Adèle est partie.
Ah,
c'est non, je ne suis pas partie, je suis toujours là.
Quel âge avez-vous, Adèle ?
J'ai 33 ans.
Très bien.
Bon, alors, elle est jeune.
Oui.
Mais et on a surtout aussi des changements de vie autour des 40-50 ans. Et c'est vrai que c'est courageux, mais c'est des moments de sa vie où effectivement on a avancé une bonne partie du chemin, on s'arrête et on se rend compte que finalement on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, il nous reste encore 10 ou 15 ans de vie professionnelle et on a vraiment envie d'aller là où on est appelé.
Le profil d'Adèle, il est un petit peu différent parce qu'elle s'est rendue compte très rapidement, avant 40 ans, que ce n'était pas fait pour elle.
Alors oui, et puis elle dit quelque chose de très intéressant, Adèle, quand elle vous dit « je ne me suis pas trompée parce que quand je suis avec les personnes âgées, j'ai l'impression que je suis là où je dois être ». Et je reviens à cette notion de désir. En réalité, quand on est là où notre désir nous porte, où notre envie nous porte, on ne se trompe pas en réalité. Là où on se trompe, c'est quand on est mu par nos peurs ou quand on est mu par nos conformismes sociaux. Mais quand on est mu par nos désirs, on se trompe rarement.
Ça vous rassure d'entendre ça, j'imagine, Adèle. Vous allez être diplômée dans quelques mois ?
Exactement. Oui. Bah alors ça me rassure. Oui. mais c'est vrai que j'ai hâte aussi d'être diplômée.
Et comment voyez-vous l'avenir justement ?
Alors écoutez, l'avenir, je la vois. Déjà, j'attends quelques mois encore avant d'être diplômée avec un mémoire à finir. Donc c'est pas évident. Donc c'est un métier du paramédical qui est pas très connu, l'ergothérapie, contrairement à la kinésithérapie. À ce jour, bien qu'elle soit en croissante expansion, mais ça reste quand même pas trop connu. Néanmoins, il y a beaucoup de demandes, puisqu'on peut travailler dans tout ce qui est hôpitaux, cliniques, dans énormément d'institutions. Je vais pas vous énumérer, faire une liste exhaustive. Et du coup, donc, je ne sais pas encore aujourd'hui, où je vais travailler, ni avec quelle patientèle. Mais néanmoins, je vais me laisser cette liberté de pouvoir y réfléchir jusqu'à l'été prochain.
Écoutez, on vous souhaite d'être épanoui, en tout cas, dans votre nouveau métier, dans votre futur métier. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci.
Oui, on l'entend. Vous êtes très épanouie. Merci à vous, Adèle. David Bourpère, directeur délégué de Hello Work. Ça confirme finalement, ça illustre ce que vous nous disiez tout à l'heure, ces métiers, ces formations pour lesquelles les Français ont fait beaucoup de recherches. Ces formations sur les ressources humaines, la santé.
Sur les formateurs également, le souhait de devenir soi-même formateur. Et ça rejoint aussi une interrogation, alors notamment sur des postes de manager intermédiaire. Des personnes qui se sont retrouvées un petit peu en porte-à-faux au cours de cette crise sanitaire, parce que pour certains d'entre eux, ont finalement perdu le lien, ou en tout cas ont eu cette sensation de perdre le lien avec leurs équipes et de perte de sens dans leur rôle managérial, ne travaillant plus au quotidien avec leurs équipes. Et donc se sont retrouvés, pour certains d'entre eux, dans cette quête de je cherche autre chose et à redevenir finalement maker. Donc c'est là où on a eu alors des recherches sur des choses qui sont très... certainement très atypique et statistiquement très probablement atypique, mais sur du CAP, boulangerier, etc. etc. Il y avait aussi ce côté première ligne et la France, et nourrir la France. Enfin, il y a eu des aspirations qui étaient de cet ordre-là. Mais ces envies-là, je pense qu'elles étaient très, très liées à cette première phase du confinement, ce qui est probablement beaucoup moins le cas, et elles s'inscrivent peut-être moins dans le temps, beaucoup moins le cas sur le second confinement, là où on voit qu'on a plutôt des aspirations sur de la monter en compétences ou sur des métiers effectivement connexes. Et c'est là où, de notre côté, on fait travailler nos algorithmes sur la plateforme Information pour proposer des formations qui ont pu intéresser des profils similaires et leur dire peut-être que ça peut aussi vous intéresser.
Peut-être que c'est
parce
pour vous.
Voilà, exactement.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Europe 1, 19h37, on n'en a pas encore fini avec le Covid, on l'a bien compris, même si la vaccination est un énorme espoir, cette crise et ces confinements successifs laisseront des traces sur notre économie, on le sait, mais aussi sur notre façon d'envisager notre travail. On a vu que de nombreux Français ont des envies de reconversion. En quoi cela peut-il changer plus largement le monde du travail ? On continue d'en parler ce soir avec mes invités, Evelyne Stavicki, coach psychologue du travail, Sophie Denave, sociologue, et David Bourpère, directeur délégué de Hello Work. Alors le confinement nous a amené à repenser totalement nos modes de travail. Pour le bonheur de certains, pas de tous. Hein. En tout cas, cette crise, elle a vraiment modifié notre rapport au travail, la place qu'on lui accorde. Vous êtes tous d'accord là-dessus, Sophie Denave ?
Oui, alors surtout ce qu'elle a pu montrer cette crise, c'est la dégradation des conditions de travail. C'est-à-dire que pour certains emplois, c'est plus facile de travailler à domicile et que pour d'autres. Et effectivement, je pense que ça passe seulement soulever la question du sens du travail, la question qu'on a évoquée tout à l'heure par rapport au fait d'être épanoui ou non au travail, qui ne touche qu'une partie mineure finalement de la population. Je pense que ça aussi fait émerger une autre question bien plus importante, qui est celle des conditions de travail et les conversions professionnelles de tout temps sont largement motivées par le fait de trouver un emploi mieux rémunéré, un temps plein, un CDI plutôt qu'un CDD. Et je pense que effectivement la crise économique qui démarre en fait avec l'ensemble des licenciements suite à la crise du Covid va participer de ce mouvement en fait. On va effectivement être amené à changer de métier ou aspirer au changement de métier pour avoir des métiers aux conditions moins pénibles, moins difficiles. Et je pense que ça, c'est quand même pour la majeure partie de la population active, puisqu'on va dire que 50%, grosso modo, des actifs sont composés d'ouvriers et d'employés et qui aspirent à de meilleures conditions de travail, alors que c'est plutôt les cadres qui aspirent à donner du sens à leur travail.
J'imagine que vous acquiescez, Evelyne Stavicki, c'est cette quête de sens, cette envie de changer de métier, elle concerne tous les secteurs d'activité, que l'on soit cadre ou ouvrier, avec des motivations qui sont différentes, bien évidemment.
Non, oui, en effet, je confirme, elle concerne tous les secteurs d'activité, et y compris les personnes qui sont ouvriers ou employés aujourd'hui, voient des mobilités beaucoup plus facilitées. Il y a quand même une grande difficulté de recrutement. On parle du secteur médical. Le secteur médical, vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent plus y travailler. Il y a énormément de demandes de reconversion dans le secteur médical. Ça va des deux côtés, parce qu'elles sont épuisées, etc. Et aujourd'hui, par exemple, dans tous les établissements médicaux, hôpitaux, centres de soins de suite, EHPAD, on crève d'un manque incroyable d'aides-soignantes, d'infirmières, c'est-à-dire de personnes qui, effectivement, ne sont pas forcément cadres, mais ont des savoir-faire qui sont pénuriques aujourd'hui.
Et alors, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une vague de démissions dans les prochains mois, de salariés voulant tout envoyer balader ? Alors, il y a la caricature d'aller élever des chèvres dans le Larzac, mais il y a plein d'autres choses à faire de très bien à la campagne.
Peut-être une vague de rupture conventionnelle, plus que de démission. Je pense que, oui. Je pense que tout le monde va plutôt penser à la sécurité, probablement.
Surtout ne démissionnez pas.
Enfin, pensez-y à deux fois en tout cas. Non, la réalité, c'est qu'effectivement, les chèvres dans le Larzac ou le BNB dans le Luberon, c'est une image un peu d'épinal. La réalité, c'est que les reconversions, elles sont aussi pensées sous un angle économique. C'est-à-dire, en gros, quelles sont mes possibilités d'emploi dans mon bassin d'emploi ou éventuellement dans le bassin d'emploi dans lequel je me projette. Et puis, en fonction de mon expérience et aussi de la grille de lecture que je peux avoir de cet environnement économique. Donc la vague de démission, non, j'y crois pas. Cette envie d'ailleurs, elle est là. Après, elle sera contrainte. Et parce que la situation de l'emploi va naturellement, tout le monde le sait, va se dégrader. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de recruter en France. On a près de 220 000 offres, nous, sur nos plateformes actuellement. Donc de l'emploi et des personnes qui recrutent, il y en a. En revanche, des destructions d'emploi, il y en a et il y en aura aussi. Donc c'est un flux.
Et alors, on pense aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement pour essayer de se réinventer et s'ils veulent espérer conserver leur talent ?
Mais la formation, et c'est notamment la formation à distance, enfin le fait d'avoir... Il y a deux aspects. Le premier, c'est le CPF. On va peut-être en parler tout à l'heure.
Le compte de formation professionnelle.
Le compte personnel de formation qui ouvre une plus grande simplicité, en tout cas, à l'accès, qui donne un accès plus facile à la formation.
Mais là, je pensais plutôt, je me mets dans la peau de l'employeur qui dit, oh là là, mon salarié, il a peut-être envie lui aussi de me quitter. Qu'est-ce que je peux faire pour le garder ?
Ben, soit je lui propose autre chose, soit je le forme, soit c'est la vie. Après, qu'un salarié se parte, je veux dire, dans l'absolu, c'est la vie. Et le mouvement, c'est la vie. Donc soit effectivement j'ai quelque chose à lui proposer et une formation à lui proposer pour qu'il monte en compétence, soit je le remplacerai, ce salarié.
Oui, le fait que certains avec le confinement aient pris conscience de leur surinvestissement dans le travail, du fait qu'ils souhaitent plus travailler de la même manière en faisant des heures de transport par jour par exemple, ça aussi ça va amener j'imagine les chefs d'entreprise à réfléchir à tous ces facteurs-là.
Alors là, c'est plus sur le mode d'organisation du mode
aussi,
de travail.
C'est-à-dire
que la réalité du télétravail, maintenant, bon, voilà, c'est un fait pour une majorité, en tout cas des salariés dans le secteur des services, dans le secteur tertiaire. Le total remote, comme le disent les Américains, là, tout le monde en est revenu. Mais un modèle hybride effectivement sur une part de présentiel et une part de distance, en tout cas de télétravail, est probablement un modèle qui va émerger avec d'autres difficultés. Hein. Et après, derrière cette formation, on voit qu'elle doit aussi se dispenser tout au long de la carrière, ou en tout cas, non pas avec des gros blocs, cette séquence de gros blocs de formation qui durent des semaines et des mois. On part plus sur des petites phases de learning en fait, au fil du temps.
Alors, puisque vous nous amenez sur la formation, vous savez quoi, on va marquer une courte pause et dans un instant, on va vous donner justement des conseils pour une reconversion professionnelle réussie. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h46, on poursuit notre débat sur Europe 1 sur les envies de reconversion professionnelle des Français, envies qui se sont révélées notamment à l'occasion de cette crise et des confinements. Alors, quels conseils pour réussir ce saut dans l'inconnu? Mes invités sont là pour vous guider. Evelyne Stavicki, coach psychologue du travail, Sophie Denave, sociologue, et David Beaurepaire, directeur délégué de Hello Work. Alors, est-ce qu'il y a, mesdames et messieurs, des clés pour trouver le job qui a du sens pour nous, qui nous permettra de trouver la juste place et de nous épanouir? Sophie Denave.
Alors moi, j'ai pas véritablement de conseils à donner. J'ai envie de dire qu'il y a des ingrédients effectivement qui favorisent la réussite de ce type de projet. Effectivement, des personnes qui ont un peu d'argent de côté, ça facilite grandement le saut dans l'inconnu. Des personnes aussi qui disposent de temps, et pour avoir du temps, il faut effectivement toucher par exemple des allocations chômage pour avoir le temps de monter son projet et pouvoir se lancer, monter une entreprise diverse et variée. Et effectivement, ce qui peut rentrer en jeu, c'est le recours aux dispositifs publics. Et là, j'ai envie de dire, ça ne tient pas qu'aux individus, ça tient aux politiques de l'emploi actuelles qui vont favoriser certaines formations plus que d'autres. Et il faut espérer que ces formations auxquelles on a accès sont des formations qui nous font rêver. Et ce n'est pas systématiquement le cas, malheureusement.
Oui, parce que parfois, on a envie de changer, mais on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Quel est le premier conseil, Evelyne Stavicki, que vous donneriez à quelqu'un qui viendrait vous voir et qui vous dirait « j'ai envie de changer de métier, mais je ne sais pas trop quoi faire ».
Peut-être que je repartirais, un, de ses compétences, qu'est-ce que la personne sait faire aujourd'hui, et deux, de son désir, je reviens un peu à ça, qui est qu'est-ce qu'elle aurait envie de faire, quels sont les environnements dans lesquels elle se sent à l'aise, dans lesquels elle se sent à sa place, quels ont été ses rêves d'enfant quand elle était petite, etc. Et après, je passerai tout ça au tamis du réel. Parce qu'on part du rêve, mais on revient au réel pour voir si effectivement, je ne sais pas, si quelqu'un me dit, voilà, j'ai envie d'être psychiatre, la personne elle a 45 ans, ça va être un peu compliqué, repartir sur 10 ans d'études, voilà, alors, c'est un rêve à peu près irréaliste. Par contre, il y a des métiers qui peuvent être plus concrets, le métier de coach, le métier de thérapeute, etc., qui seront peut-être plus accessibles et qui lui permettront de réaliser une partie de ses désirs. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller parler, questionner des personnes qui font ces métiers-là, et qui vous parleront aussi des contraintes des métiers. Il ne faut pas hésiter à aller faire des stages ou passer 2-3 jours dans une entreprise ou auprès d'un professionnel pour voir son réel d'activité. Il faut surtout savoir très bien s'entourer. Attention aux oiseaux de mauvais augure. Attention à tous ceux qui vous diront qu'il ne faut pas, que ce n'est pas prudent, voilà, etc. Je pense qu'il faut savoir s'entourer de personnes ressources, soit auprès des siens, soit à l'extérieur. Il y en a aujourd'hui qui vous aident à monter votre projet, à faire votre business plan, à voir la réalité économique, à construire les compétences qui vous manqueront, à construire le réseau qui vous manquera, et puis à vous lancer, et à vous lancer de façon prudente, mais en même temps avec un peu d'audace, parce qu'il n'y a pas de vie sans audace.
Et puis savoir ce qu'on n'a plus envie de faire, peut-être, d'abord.
Tout à fait. Oui, on peut partir aussi de ça, c'est intéressant.
Et on dit souvent qu'il faut prendre une feuille de papier et lister ses besoins fondamentaux, par exemple.
Ce que j'aime pas.
Voilà, je veux un travail qui me laisse du temps pour mes enfants, un travail qui ne me demande pas de faire des heures de transport par jour. Ça, c'est important de se fixer des objectifs clairs et réalisables.
Hein, c'est intéressant, mais je vous assure que ça fait à peu près 15 ans que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un est venu me voir avec cette question, en réalité, il avait la réponse. Mais il ne savait pas forcément qu'il l'avait. Mais à partir d'un peu de questionnement et de réflexion, en fait, on tire un fil et il sait ce qu'il a envie de faire.
David Beaurepaire, les bilans de compétences, par exemple, on en propose souvent. Est-ce que c'est vraiment utile ?
J'ai envie de dire que c'est très souvent utile, justement, lorsqu'on est sur une personne qui ne va pas réussir à verbaliser exactement ce qu'elle souhaite, mais où il y a déjà un canevas, où il y a déjà quelque chose qui est en place. Et on voit que là, sur l'étude que nous avons menée, 50% des utilisateurs savaient à peu près vers quel métier ou vers quelle formation ils se destinaient. Lorsqu'on est face à quelqu'un qui souhaite juste changer, mais sans savoir du tout ce vers quoi il souhaite aller. Nécessairement, il va devoir affiner lui-même aussi son parcours et son choix et ses souhaits, et en le mettant à l'épreuve de la réalité. Effectivement, rencontrer des professionnels dans divers métiers permet de se rendre compte de la réalité de ces métiers plutôt que de la projection qu'on peut en avoir. Donc c'est un élément très très important.
Sophie Denave, ça prend combien de temps en moyenne entre le moment où on décide qu'on va changer de vie et la réalisation de ce projet ?
Alors ça dure minimum plusieurs mois jusqu'à plusieurs années. En fait, ce sont des processus très longs qu'on va résumer en disant ça c'est le jour, tel jour où j'ai pris la décision, mais finalement ça prend des mois à mûrir. C'est-à-dire que effectivement, il faut déjà être sûr qu'on en a marre de son métier et pas de son entreprise, ça demande déjà du temps, donc parfois on va changer d'entreprise avant de changer de métier, donc voilà, ça prend quelques années. Et puis après, il faut construire son nouveau projet professionnel, effectivement en mobilisant son réseau social, si on en a un, bien entendu, en essayant de voir ce qui est possible, effectivement, si on peut emprunter de l'argent pour monter une petite boutique, etc. Donc tout ça, ça prend énormément de temps.
Vous êtes d'accord avec ça, Evelyne Stavicki ? Il faut prendre son temps, parce que bon, on peut avoir envie de foncer, ça y est, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de tout bousculer d'un coup.
À la fois, il faut prendre son temps, puis il faut avancer. Voilà, la pire des choses, c'est l'immobilisme.
Ça coûte cher, une reconversion professionnelle, David Beaurepaire ?
Je pense que ça va dépendre énormément.
Mais
ça va dépendre d'énormément de situations, des cas. Mais l'intérêt, on parlait tout à l'heure du compte personnel de formation. Tout le monde, toutes les personnes qui ont en tout cas travaillé, disposent d'un matelas, alors plus ou moins épais. Et d'ailleurs, j'incite tous ceux qui ont un DIF et qui ne l'ont pas converti en CPF. C'est un petit peu technique, mais c'est important de le faire avant le 31 juin pour garder ses droits. Et les transformer donc sur le compte personnel de formation.
Il y a une application maintenant, je crois, qui permet de voir ses droits. Oui.
Complètement. Et avec une somme en face et qui vous donne droit derrière de la formation. Et ça, c'est un premier matelas, c'est une première base déjà pour une reconversion. Ça ne signifie pas pour autant que ça va financer l'entièreté de la reconversion ou de la formation. Mais en tout cas, c'est une base.
Et alors, au vu de la situation économique actuelle et sanitaire, etc., est-ce que c'est vraiment le bon moment pour tenter une reconversion, d'après vous, David Beaurepaire ? Joker.
Très compliqué de répondre à ça. C'est dans l'absolu, les moments de crise sont aussi des moments d'opportunité, mais ils ne peuvent pas l'être pour tout le monde et ça dépend de sa situation personnelle. Je pense qu'on a la capacité de prendre des risques, soit parce qu'on est acculé, soit parce qu'on a suffisamment un matelas financier, en tout cas, qui nous permet de prendre ces risques. Voilà, donc là, ça dépend quand même pas mal de la situation de chacun.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. On souhaite bon courage à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, à qui ça a peut-être donné des idées, qui ont envie de se lancer ou y arriver. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci. Au revoir.
Europe 1. Écoutez le monde changer.